Genet voulait manifester l'envers du monde, là où la beauté doit avoir la puissance d'un poème, c'est-à-dire d'un crime, écrit-il. N'y a-t-il pas chez lui ces lueurs, ces éclats lumineux qu'on verrait sur l'écran vide qu'est la lame d'un couteau ? Henri Van Lier.
En 1942, à la prison de Fresnes, un prisonnier date l'achèvement d'un roman qui commence comme ceci. Weidmann, un nom d'assassin, et pas n'importe quel nom. Parce que Weid, si on dit presque Weid, Weidmann, ça devient l'homme vaste, l'homme immense, l'homme sans contour. Weidmann, vous apparu. Ah bon, il s'agit d'apparition. Et d'une apparition qui est tournée vers qui? Mais vers nous. Vous apparu. Dans une édition de 5 heures. La tête emmaillotée de bandelettes blanches. Religieuse et encore aviateur blessé. Tombé dans les seigles. Un jour de septembre pareil à celui où fut connu le nom de Notre-Dame des Fleurs. Voilà donc un écrivain qui cogne, qui se cogne, comme il dit lui-même. Se cogne à l'intérieur du langage, se cogne peut-être aussi contre les murs d'une cellule, magnifiant, pour la première fois peut-être avec cette force depuis l'Antiquité, le crime. Son beau visage multiplié par les machines s'abattit sur Paris et sur la France, au plus profond des villages perdus, dans les châteaux et les chaumières, révélant aux bourgeois attristés que leur vie quotidienne est frôlée d'assassins enchantés. Élevés sournoisement jusqu'à leur sommeil qu'ils vont traverser par quelque escalier d'office qui, complice pour eux, n'a pas grincé. Sous son image, éclaté d'aurore, ses crimes. Meurtre 1, meurtre 2, meurtre 3, et jusqu'à 6. Disait sa gloire secrète et préparait sa gloire future. Un des grands mots de Jean Genet, comme de Pierre Corneille, il se serait bien entendu d'ailleurs, à bien des égards, Corneille quand il nous dit « Les actes sont monstrueux, mais nous pouvons admirer la source dont ils procèdent. Sa gloire secrète et préparer sa gloire future. » Un peu plus tôt, le nègre Ange Soleil avait tué sa maîtresse. Un peu plus tard, le soldat Maurice Pilorge assassinait son amant Escudero pour lui voler un peu moins de 1000 francs. Puis on lui coupait le cou pour l'anniversaire de ses 20 ans. Alors, vous vous le rappelez, il esquissait un pied de nez au bourreau rageur. Enfin, un enseigne de vaisseau, encore enfant, trahissait pour trahir, on le fusilla. Et c'est en l'honneur de leur crime que j'écris mon livre. Genet aime la prison. C'est elle qui le fait poète. Et au fond, il aime l'écriture, il aime le livre, parce que le livre lui-même est une prison. J'aime à la folie, comme j'aime la prison, cette typographie serrée, celle des magazines qui tombent en fin de semaine, les détectives, le François, compacts comme un tas d'immondices, bourrés d'actes sanglants comme des linges, des vétus de chat mort, et je ne sais si ce sont des sexes roidement érigés qui se transforment en durs chevaliers ou les chevaliers en sexes verticaux. Nous avons l'écran sur lequel le livre va se faire. C'est le mur de la cellule. Ce mur a quelques dessins, quelques têtes d'assassins découpées, mais il est surtout l'écran vide sur lequel Genet va pouvoir se projeter, et ici dans la création de celle qu'il va appeler divine. Proust nous a habitués à une homosexualité que nous avons appelée feutrée, grise. Ici, au contraire, c'est cette homosexualité qu'on sent très bien à travers le recueil américain intitulé « The Male Muse », la muse mâle, et qui est fait à tout moment de giclements, de pointes stellaires. Lui aussi est un volubilis, et divine où il va s'incarner. Mais il n'y a pas cette continuité du volubilis proustien. Non, au contraire, ici, on dirait que chaque articulation de la plante est à vis. Elle se veut tranchante, mais en même temps enveloppante. Et voici les tons de filles qui parlent entre elles. Quand, avec quelques autres, elles étaient réunies dans la rue ou dans un café de tente, de leur conversation, de leur bouche et de leurs mains, s'échappaient des fusées de fleurs, au milieu desquelles elles se tenaient de la façon la plus simple du monde, discutant de sujets faciles et d'ordre ménager. Je suis, bien sûr, la toute dévergondée. Ah, mesdames, quelle gourgandine je fais. La gourgandine est une plante. Tu sais, le hus filait si longtemps qu'on ne percevait que lui, notre genêt. Tu sais, je suis la consumée d'affliction. Voici, regardez, la toute froufrouteuse. L'une d'elles interrogée sur le boulevard par un inspecteur. Qui êtes-vous? Je suis une émouvante. Puis peu à peu, elle s'était comprise en se disant « Je suis la toute toute. » Et enfin, « Je suis la thé. » Il s'agit de deux T majuscules, avec chacun l'apostrophe. Et je les note. Lentement, mais sûrement, je veux la dépouiller de toute espèce de bonheur, divine genêt, pour en faire une sainte. Car c'est bien ça son programme. C'est d'atteindre à cette sainteté particulière que l'on ne peut toucher que dans le mal. Il est intéressant de remarquer qu'au même moment, il y a un bibliothécaire de la bibliothèque d'Orléans, le fondateur d'une revue très respectable, la revue critique, Georges Bataille, qui écrit, qui confesse lui aussi, « Je ne suis pas un philosophe, mais peut-être un saint, peut-être un fou. » Et cette sainteté se trouve dans la même région. Dieu est l'horreur en moi de ce qui fut, de ce qui est, et de ce qui sera si horrible qu'à tout prix, je devrais nier et crier à toute force. Que je nie que cela fut, que cela est, que cela sera, mais je mentirai. Assurément, l'horreur, c'est-à-dire le sacré profond, chez Bataille et Genêt ne sont pas de même sorte. Chez Bataille, il s'agit surtout de dilution. Il s'agit surtout, justement, d'un monde où, derrière le discontinu de la vie quotidienne, nous allons retrouver le continu, celui du verre qui donne deux verres par sissiparité, celui où des millions, des milliards d'insectes se confondent dans un vol nuptial, celui qu'il va également retrouver dans la conjonction sexuelle, précisément saisie comme confusion-fusion des individus. Alors que, chez Genêt, je répète, on se cogne. On se cogne, au fond, une fois par ligne environ. Et on l'aura sans doute remarqué dans la lecture. Weidmann vous a paru dans une édition de 5 heures, la tête emmaillotée de bandelettes blanches, religieuse et encore emmaillotée blessée. C'est une série, une succession de décochements, mais en concevant divine, en l'amenant à cette sainteté par l'Écriture, le prisonnier criminel, Genet, est devenu le criminel écrivain Genet. Ce criminel écrivain a failli apparaître à la radio française dans un texte qui se serait appelé Carte blanche et qui a été publié en 1949. Il est intéressant, je crois, de l'entendre. Voici quelques phrases. Il avait pris pour thème l'enfant criminel. Le seul moyen qu'auront les grandes personnes, les honnêtes gens, de sauvegarder quelque beauté morale, c'est de refuser toute pitié à des gosses qui n'en veulent pas. Ils exigent que l'épreuve soit terrible, afin d'épuiser peut-être un impatient besoin d'héroïsme. Toujours Pierre Corneille. Les pénitenciers sont bel et bien la projection sur le plan physique du désir de sévérité enfoui dans le cœur des jeunes criminels. Et enfin, c'est à eux que je parle. Je leur demande de ne rougir jamais de ce qu'ils firent, de conserver en eux intacte la révolte qui les a fait si beaux. Il n'y a pas de remède, je l'espère, contre l'héroïsme. Et voici, toujours dans le même texte, une définition précieuse du mal. Le mal, nous entendons bien cette volonté, toujours Corneille, cette audace de poursuivre un destin contraire à toutes les règles. Et maintenant il parle de lui, je m'immerge dans le mal. C'est mon élément et mon instrument pour rassembler des connaissances. Le mal, c'est donc l'héroïsme, mais c'est aussi un instrument pour rassembler des connaissances. Et sous les trois formes qu'il appelle ces trois vertus théologales, le vol, l'homosexualité et la trahison. Enfin, le mal, c'est le risque. Si l'on entreprend, dis-je, d'accomplir le bien, on sait où l'on va, et que c'est le bien, et que la sanction sera bénéfique. Quand c'est le mal, on ne sait pas encore de qui l'on parle. Mais je sais qu'il, avec une majuscule, est le seul à pouvoir susciter sous ma plume l'enthousiasme verbal. L'enthousiasme, c'est la possession par le Dieu, à l'enthousiasmos platonicien. Signe ici de l'adhésion de mon cœur. En effet, je ne connais d'autres critères de la beauté d'un acte, d'un objet ou d'un être que le chant qu'il suscite en moi, et que je traduis par des mots afin de vous le communiquer, c'est le lyrisme. Je n'ai allé subir une tentation terrible, et cette tentation s'appelle Sartre. C'est-à-dire que, bon, au moment où il sort de prison, il est soutenu par Cocteau, il est soutenu par Sartre, par Simone de Beauvoir, et il va donc rencontrer des gens intelligents, mais non seulement des gens intelligents, mais des gens qui veulent tout expliquer. Et donc, ils n'auront de cesse qu'il n'ait expliqué Jean Genet. Et c'est évidemment la chose la plus terrible qui puisse arriver à un écrivain. Or, en 1945-1950, au moment où Genet entre dans le monde littéraire, l'humanité connaît sa ferveur ou sa folie de l'a priori, de l'explication a priori, la plus violente qu'elle ait jamais rencontrée. Grâce, tantôt, à la phénoménologie plus ou moins transcendantale, à l'existentialisme, grâce à la psychanalyse, grâce à un bout de marxisme, n'importe qui dans sa chambre arrivait à faire un système complet. Si on veut entendre un peu ce que ça pouvait être, voici quelques lignes du Saint Genet, comédien et martyr de Sartre. On discerne à l'origine de cette conduite négative une volonté sourde d'être rejeté, de revendiquer le dernier rang, faute de pouvoir s'élever au premier, bref, une attitude d'échec. Mais ce n'est pas la cause unique. n'est peut-être la cause principale de ce comportement. Je fais la part, bien sûr, de la fatigue physique, de la peur et du dégoût. Pourtant, il y a autre chose. Gêné s'est évanoui. C'est une scène qui vient de raconter, donc, hein, où on lui demandait de voler, puis s'évanouit au lieu de voler. Gêné s'est évanoui parce que le vol était fictif. Pressé par la faim, etc. Et ça continue sur ce ton. C'est exactement ce que Proust appelle la non-littérature extrême. C'est-à-dire le journalisme, l'attitude où l'on parle à quelqu'un, où on explique, où on va tout dévoiler, et dans le cas de Sartre, où on va tout dévoiler a priori. Alors, Genet va avoir la tentation sartrienne, c'est-à-dire la tentation du système, au moment où il va passer au théâtre. Il est bien entendu qu'il devait passer au théâtre. Le prisonnier, tel qu'il l'envisage, est un incessant comédien. Divine, la toute-toute, est la comédienne absolue. Et c'est cette comédie qui est son lyrisme. Alors il va écrire une première pièce, Les Bonnes, qui va être du pur Sartre. Les Bonnes qui jouent à être Madame, tandis que Madame n'est pas là, et qui donc sont à la fois la Bonne sans être la Bonne, ayant chacune devant elle une autre Bonne qui n'est pas une Bonne. Je ne me moque pas, je caractérise simplement un moment qui est celui de la dialectique, qui a fait fureur dans les années 50. Puis ce sont les nègres. Du Sartre pur, la seule vérité du noir est de jouer à être un noir. Comme la seule vérité du coupable est de jouer à être un coupable. Cela fait d'ailleurs une pièce magnifique. On suppose qu'il y ait au moins un blanc dans la salle. Sur la scène, des Noirs répartis en deux groupes, cinq d'entre eux vont jouer les grands rôles de l'Européen, en étant bien Noirs, mais avec des masques de blanc, en étant la reine, le gouverneur, le valet, le missionnaire, que sais-je encore. Et en dessous, des Noirs, jouant à être des Noirs, sous ces instances. Village, l'homme noir, croix aimée, vertu, la femme noire, et Archibald, qui est le maître de cérémonie, celui qui préserve la dialectique, qui montre que toute relation est fausse, est bien là pour leur montrer que chez eux, tout amour sera joué. Village disait, « Quand je vous vis sur de hauts talons, vous marchiez dans la pluie. Vous aviez une robe de soie noire, des bas noirs, un parapluie noir et des souliers vernis. Oh, si je n'étais né en esclavage, une étrange émotion m'eût bouleversé. Mais nous nous déplacions, vous et moi, à côté du monde, dans sa marge. » Il continue, mais Archibald intervient. « Tu crois aimer, tu es un nègre et un comédien. Ni l'un ni l'autre ne connaîtront l'amour. Or ce soir, mais ce soir seulement, nous cessons d'être des comédiens étant des nègres. Nous sommes sur cette scène semblables à des coupables qui, en prison, joueraient à être des coupables. » On voit le danger de ce théâtre, c'est que si animé soit-il, si essentiel soit-il, il est presque à chaque instant des thèses illustrées. Et derrière chaque parole, à peu près, c'est la thèse qu'on entend. Il est d'ailleurs recommandé aux acteurs de jouer mal, c'est-à-dire de jouer faux, pour bien faire sentir que toujours on est et que l'on n'est pas ce que l'on est. Genet va sentir le piège, et le balcon ne donnera plus lieu à ces interprétations transparentes. Thème extraordinaire, d'ailleurs, celui d'un bordel qui est une maison d'illusion où certains viennent jouer à être évêque, à être juge. Et puis à un moment, au cours d'une révolution véritable, ils deviennent de véritables évêques, de véritables juges, une véritable reine, jusqu'au moment où, bien entendu, la situation se retourne encore une fois et qu'ils reviennent à leur situation primitive. On est donc toujours bien dans Genet, dans le criminel écrivain Genet, jouant avec la racine du mal, mais cette fois sortant de la dialectique sartrienne, pour arriver à sa propre problématique à lui, qui est celle de quoi ? De l'image et du reflet. Mais un balcon, c'est encore trop lourd. Et l'ultime aboutissement du théâtre de jeunesse est les paravents. Les paravents peuvent faire une frontière encore plus légère entre le dedans et le dehors, entre le réel et l'imaginaire, surtout si on y dessine des environnements à mesure que se déroule la pièce. Genet va utiliser les paravents pour poser la question suprême, celle du rapport entre les vivants et les morts, entre nos morts, qui ne sont jamais tout à fait morts, puisqu'ils restent nos signes. Je suis en train de parler de Genet, ou de parler Genet, qui n'est donc pas si mort que ça. Et les vivants, qui sont largement des morts. Pour l'instant, je n'existe qu'en parlant de Genet mort. Je ne suis que sa mort dont je parle, ou qui parle à travers moi. Bien sûr, déjà Claudel, dans le repos du septième jour, avait fait descendre l'empereur de Chine chez les morts. Mais c'était pour poser des questions de vivants. Dans les paravents, Genet va au bout du possible. Il déploie des paroles et des actes de morts qui sont sémantiquement vivants et de vivants qui sont sémantiquement morts. C'est ni vivant ni mort, conclut Homou, la mère absolue, qui est un peu comme chez le bataille de ma mère, celle qui comprend tout au sens physique de comprendre, qui sait que dans les révolutions, ici celle d'Algérie, il n'y a pas d'exemple, il n'y a que des drapeaux, des signes volatiles et affolés. Bien sûr, dans tout ça, aucun engagement politique. Dans son dernier grand ouvrage paru Un captif amoureux, Genet relate son expérience en Palestine auprès des Palestiniens autour de 1970, mais c'est bien auprès des Palestiniens, pas avec les Palestiniens. La page la plus extraordinaire montre bien qu'il s'agit d'un processus proprement poétique. Dans une tragédie de Shakespeare, des archers tirent des flèches contre le ciel. Et je n'aurais pas été surpris si des fédaïms, d'aplomb sur leurs jambes écartées, mais agacés par ton beauté en forme d'arc s'arrachant à la terre d'Israël, eussent visé et tiré des balles contre la voie lactée. La Chine et les pays socialistes leur fournissant assez de munitions pour faire dégringoler la moitié du firmament, tirer des balles contre les étoiles, cependant qu'elles sortaient de leur propre berceau, la Palestine. Des lignes comme ça, c'est un coup à la Chateaubriand dans les mémoires d'Outre-Tombe. Mais pourquoi? Parce que le fantasme fondamental de Genet est carcéral, d'une carcéralité positive, poétique, et que la Palestine lui apparaît comme une prison géante et en plein air gardée par Israël. Puis, le ciel étoilé est le fantasme homosexuel majeur. Il y a donc ici morceau d'anthologie à cause de la rencontre, de la déflagration des deux fantasmatiques essentiels à Genet. À aucun moment on ne quitte la création poétique pour l'engagement politique ni social. Mais il faut dire un mot de Sévère. Je veux porter la langue française à son comble de chaleur et d'intensité. J'y arriverai, vous m'entendez.
On sait comment il s'y est pris, je crois que tout le monde connaît un peu par cœur. Où vient mon ciel de rose, où ma corbeille blonde à cause du chant. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalade, mort, mais viens. Pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il ne fait pas lire le jour. Tout cela marque déjà bien la façon dont le mot est traité comme un éclat lumineux, comme une percée stellaire. Mais je voudrais bien faire entendre quelques vers beaucoup plus complexes. Des strophes de 9 vers, construction déjà assez particulière, de 10 syllabes. Un enfant est étendu sur la plage. C'est le pêcheur du suquet. On imagine Genet à distance. Tu veux pêcher à la fonte des neiges, dans mes étangs de bagues retenues. Ah, dans mes beaux yeux plongés, tes bras nus que d'acier noir deux rangs de cils protègent. Sous un ciel d'orage et de haut sapin, pêcheur mouillé, couvert d'écailles blondes, dans tes yeux mes doigts d'osier, mes pâles mains voient les poissons les plus tristes du monde fuient de la rive où j'émiette mon pain. Tremble, l'arbre tremble, le peuplier tremble. Tremble, au sommet de toi seul balancé, ton talon rose accroche à la ramure le soleil levant. Tremble, ton murmure frissonne sur mes dents. Tes doigts cassés peignent l'azur et déchirent l'écorce au tremble qui te fait doux et frangé de neige, érige, exige ce torse blessé profond, mais de plumes allégées. À s'épanouir, mes lèvres le forcent.
Sur quoi quitter Genet, ou plutôt rompre avec lui? Parce qu'on rompt avec lui.
Sans doute sur ce qu'il a écrit immédiatement après Notre-Dame des Fleurs, à savoir le miracle de la rose, et qui se termine à peu près par l'exécution d'Arcamone. Quatre hommes noirs sont entrés dans sa cellule et ils vont commencer la descente dans le cœur de l'assassin. Ils sont entrés en lui par les oreilles, par les narines, par la bouche, de partout. Enfin, les quatre hommes noirs arrivèrent devant une glace où était dessiné, visiblement gravé avec le diamant d'une bague, un cœur traversé d'une flèche. C'était là sans doute la porte du cœur. Quel geste fit le bourreau, je ne saurais le dire, mais ce geste fit ouvrir le cœur et nous pénétrâmes dans la première chambre. Elle était nue, blanche et froide, sans ouverture. Seule au milieu de ce vide, droit sur un billot de bois, un jeune tambour de 16 ans était debout. Son regard impassible et glacé ne regardait rien au monde. Ses mains souples battaient du tambour. Les baguettes levées retombaient nettes, précises. Elle scandait la plus haute vie d'Arcamone. Nous vit-il? Vit-il le cœur ouvert et profané? Comment ne fûmes-nous pas saisis de panique? Et cette chambre n'était que la première. Il restait à découvrir le mystère de la chambre cachée. Mais à peine l'un des quatre eut-il pensé qu'il n'était pas au cœur du cœur qu'une porte s'ouvrit d'elle-même et nous nous trouvâmes en face d'une rose rouge, monstrueuse de taille et de beauté. La rose mystique, murmura le meunier. Ils arrivèrent, les tempes battantes, la sueur au front, au cœur de la rose. C'était une sorte de puits ténébreux. Tout au bord de ce trou noir et profond comme un œil, ils se penchèrent, et l'on ne sait quel vertige les prit. Ils firent tous les quatre les gestes de gens qui perdent l'équilibre, et ils tombèrent dans ce regard profond. J'entendis le pas des chevaux qui ramenaient le fourgon pour conduire le supplicié dans le petit cimetière.